la chronique beaujolaise de l'Académie. Une émission proposée par les académiciens Pierre Prunet et Jean-Pierre Chantin. Sur Calade, le 100.9 et www.radio-calade.fr. La chronique beaujolaise de l'Académie, c'est parti.
Alors cette émission se déroule dans le cadre des chemins de traverse, les premiers mardis de chaque mois à 18h30, rediffusée le samedi suivant. Elle précède une conférence de l'Académie d'Île-Franche et du Beaujolais qui a lieu le deuxième samedi de chaque mois à 16h à l'Auditorium de Villefranche et traite du sujet en l'élargissant. Ce mois-ci, la conférence du 9 septembre s'intitule « Blaise Pascal ou la pensée façon puzzle ». Elle sera faite par Alexandre Portier, professeur de philosophie et député, membre associé de notre académie. Aujourd'hui, nous en profiterons pour faire plus précisément avec Jean-Pierre Chantin, académicien et chercheur en histoire des faits religieux, un point sur l'un des combats de Pascal, le jansénisme. Bonjour Jean-Pierre Chantin.
Bonjour Gisèle Spica, bonjour Pierre Prunet.
Bonjour Jean-Pierre. Donc c'est à moi que revient peut-être la première question, pour prendre le relais de Ghislaine. Oui, donc Blaise Pascal, pourquoi Blaise Pascal au programme de l'Académie? C'est parce que nous allons célébrer le 400e anniversaire de sa naissance. Donc, et puis il faut peut-être préciser qu'il était décédé un 19 août. Alors la date, il faut rajouter 39 ans. Donc voilà. Alors, une des premières questions, c'est certes Pascal a commencé très jeune. C'est un puzzle, comme dit l'intitulé de notre conférence. On va axer notre questionnement sur le fait religieux plutôt. Alors c'est vrai, qu'est-ce que le jansénisme? Voilà la première question que je peux poser à Jean-Pierre.
Eh oui, Blaise Pascal est une des figures de ce combat qu'est le jansénisme. Alors il y a une célèbre formule qui dit que le jansénisme, tout le monde en parle, mais personne ne sait ce que c'est. Et effectivement, c'est pas, je crois que c'est Flaubert, le dictionnaire des idées reçues, qui dit ça. Donc effectivement, là, c'est, je prendrais bien 3 heures pour vous expliquer, mais on n'a pas le temps. Et d'abord, c'est une doctrine théologique, le jansénisme. Le nom jansénisme vient d'un évêque d'Ypres. Ypres, c'est dans la Belgique actuelle, Corneille Jansen, qui, en 1638, a tout simplement participé à une controverse qui existait entre deux camps. Alors lui, il faisait partie d'un camp qui défendait Augustin d'Hippone, saint Augustin, et l'autre camp, c'était les jésuites. Et le débat théologique porte sur la grâce qui permet d'aller dans le paradis. Les jésuites voulaient innover en disant que Dieu donne un petit bout de grâce à chacun et que chaque personne doit la faire fructifier, et c'est comme ça qu'ils iront au paradis. Alors que les Augustins et les jansénistes, eux, disent que Dieu ne donne que sa grâce, et si on ne l'a pas, quoi qu'on fasse, on n'ira pas au paradis. Donc c'est une grâce efficace, alors que les jésuites défendent une grâce suffisante. Alors j'ai vraiment très très résumé, mais ça veut dire deux choses. Ça veut dire que si on a un petit bout de grâce et qu'on doit la faire fructifier, on a besoin du clergé et de l'Église. Alors que si on n'est pas sûr, puisque quoi qu'on fasse, on ne sait pas si on sera sauvé après sa mort, donc ça c'est la position janséniste, eh ben, il faut être le plus parfait possible, parce que sinon on risque d'avoir des ennuis, et là le clergé n'est pas forcément toujours très nécessaire. Donc voilà, un débat sur tout ça. C'est donc bien une querelle au sein du catholicisme, au moment où le protestantisme apparaît. Donc, et c'est pas une hérésie, le jansénisme. Ça n'a jamais été condamné. Hein, c'est vraiment une option, une opinion théologique, mais qui va connaître un développement à partir de ce début du XVIIe siècle assez extraordinaire.
Donc c'est la publication de Logicinus qui a lancé ce conflit ou probablement.
Alors le conflit existait déjà avant, mais on va dire que donc Jansen fait une somme qu'on va appeler Logicinus parce qu'elle est publiée en 1640 après sa mort. Il meurt de la peste. Donc, et cette somme, très épaisse, hein, c'est un livre qui fait peur à tout le monde quand on le voit en vrai, cette somme, elle relance la querelle qui existait déjà avant. Et il devient, donc Jansen, qui pourtant est mort, mais les partisans de Jansen devient les fers de lance de cette option de sur la grâce. Et bon, lui, Janssen, il est plus là, mais le terme de janséniste est un terme péjoratif qui est donné par les jésuites pour dire, voyez, si c'est un parti, eh ben c'est donc une hérésie. Les jansénistes vont avoir de cesse de dire, mais en fait, ils sont hors de l'Église, ils se trompent, alors que les jansénistes, eux, ils vont s'appeler comme ça par défaut, mais ils disent, mais nous, on relève d'Augustin, d'Hippone, 4e siècle quand même, hein, donc il y avait de l'ancienneté.
Donc aujourd'hui, il ne reste rien de cette pratique-là.
Ah si. Aujourd'hui, si. Il reste... Si. Bon. Blaise Pascal n'est pas du tout dans le
coup. Non, mais Blaise Pascal, c'est sûr. Mais est-ce qu'il y a une pratique? Est-ce qu'il y a encore des cercles?
Ah, il y a toujours aujourd'hui des héritiers du jansénisme. Oui. Oui. Alors, l'histoire est un peu... Je passe sur toutes les périodes entre Pascal et aujourd'hui. Mais vous avez, à partir de la Révolution française, des groupes qui se maintiennent en défendant cette position-là. Pour la région, pour notre région, on est concerné, puisque ce qu'on appelle la petite église de Lyon, donc des personnes qui ont refusé au début du XIXe siècle d'appliquer l'accord qui a eu lieu entre Napoléon et le pape Pie VII pour réorganiser l'église de France, mais eux sont, avant d'être opposants au concordat, donc anti-concordataires, ils sont issus de ce mouvement janséniste. Et ils continuent à défendre la grâce efficace, ils continuent à défendre les grands anciens, dont Janssen, et tous les défenseurs du jansénisme. Et ces anti-concordataires, donc j'ai dit Petite Église de Lyon, mais il y en a encore en Beaujolais, hein, puisque c'est la région qui nous intéresse, notamment à Audena, où des vignes servent à apporter de l'argent aux organisations qui existent à Lyon, notamment des écoles, des petites écoles primaires. Mmh. Et puis, pendant longtemps, mais aujourd'hui ça n'existe plus, il y avait une école d'anticoncordataires à Saint-Georges de Ronin, dans le hameau de Nuit, où on formait les cadres de l'église de Lyon pour espérer qu'un jour ils deviennent prêtres. Mais là, c'était peine perdue, puisque aucun évêque n'a voulu, au XIXe siècle, sacrer ces personnes-là. Je signale qu'il y avait aussi des groupes, mais ils ont disparu assez tôt, à l'ASNA, puisque le curé de l'ASNA, pendant la Révolution française, qui s'appelait Claude Germain, est un janséniste convaincu, et qu'il a entraîné avec lui sa famille, les Germains de Montauzan, et une partie de sa paroisse sur cette voie-là.
Alors, quand on sait la façon dont Louis XIV a traité les jésuites, on comprend mal pourquoi il a dissous Port-Royal.
Oui, alors on est bien après Blaise Pascal, là, oui, en l'occurrence. En fait, le jansénisme, très vite, il va avoir deux ennemis. Le premier ennemi, et c'est bien naturel, c'est les jésuites. Et là, vous verrez qu'on revient sur Blaise Pascal, mais les jésuites qui sont soutenus par Rome. Et Rome défendant les jésuites, Rome, je rappelle qu'à l'époque, le pape n'a pas d'autorité sur l'Église de France. Si une décision est prise à Rome, elle doit être acceptée par le Parlement de Paris. Donc on n'est pas encore, comme aujourd'hui, à l'infaillibilité pontificale. Hein, donc une décision du pape n'a pas force de loi en France. N'empêche que le pape combat ce mouvement et il voit une contestation de ce pouvoir qu'il aimerait bien asseoir sur la France. Donc là, il y a une opposition religieuse qui vient de Rome et des jésuites. Mais il y a aussi une opposition politique, puisque assez tôt, ce groupe janséniste, qui est d'abord constitué d'élites, dans les élites notamment françaises, ce groupe janséniste retrouve du côté de la Fronde et des opposants à la monarchie absolue. Et là, pour le coup, on a des rois, donc Louis XIV en l'occurrence, qui vont voir dans ce parti janséniste des adversaires. Vous savez que Louis XIV n'aimait pas beaucoup l'adversité. Et ses adversaires, donc les raisons religieuses lui importaient peu à Louis XIV, pour ce cas-là ou comme pour d'autres. Et donc il a combattu les jansénistes, en lien avec le pape en l'occurrence, pour abattre le plus possible le parti. Et c'est pour ça qu'il a fait démolir l'abbaye de Port-Royal, qui était le lieu par excellence de ce jansénisme dans la vallée de Chevreuse, près de Paris. Non seulement il l'a fait détruire, mais il a fait déterrer les tombes, les corps dans le cimetière, pour les emmener, qu'il n'y ait pas de culte ailleurs. Donc vous pouvez toujours aller voir les ruines de Port-Royal, des champs, mais plus l'abbaye elle-même.
Alors pourquoi Blaise Pascal s'y intéressait au jansénisme?
Alors Blaise Pascal, il est originaire d'Auvergne, comme chacun sait. Au début, Blaise Pascal, c'est plutôt un compagnon de route. C'est un compagnon de route parce qu'il a une sœur de laquelle il est très proche, qui s'appelle Jacqueline. Et Jacqueline, Jacqueline Pascal, elle est justement religieuse à Port-Royal des Champs. Et donc, par elle, il est proche des milieux, mais il ne s'y intéresse pas vraiment. D'ailleurs, il n'est pas très, très religieux. Et il explique qu'il y a eu une nuit de feu en 1654, et une espèce de révélation. Et cette révélation l'a tournée vers la religion en disant qu'il y avait là un combat à mener. Et ce combat, il devait se mener en faveur de ceux qui défendent la vérité. Et ceux qui défendent la vérité, ce sont les jansénistes. Donc à partir de là, il va s'engager à fond dans ce mouvement. Il faut dire aussi qu'il a eu une éducation, on peut dire, jansénisante, avec un père qui était parlementaire, donc qui était assez proche de ces milieux. Puis il a une autre sœur aussi qui était à Port-Royal des Champs, ce qui fait qu'il a quand même été assez vite entouré de ce milieu-là. Et donc quand il rentre là-dedans, il s'y donne tellement corps et âme qu'il va même faire des retraites à Port-Royal des Champs. C'est ce qu'on appelle les messieurs de Port-Royal, donc des personnes fortunées qui abandonnent tout et qui vont. Alors certains vont habiter à Port-Royal des Champs, à côté de l'abbaye, de manière permanente, en vivant d'assaise et de prière. Et puis d'autres vont faire des périodes de recueillement. Et Blaise Pascal est un de ceux-là, hein, ce qu'on appelle les solitaires de Port-Royal. Et ils ont aussi fait des écoles, notamment Racine a été un des élèves de Port-Royal. Mais donc Blaise Pascal se donne corps et âme et va faire ses retraites auprès des solitaires de Port-Royal des Champs.
Calade.
Ma radio.
Alors qu'il n'a pas fait d'études particulières théologiques, quel a été son rôle dans ce conflit théologique entre les jésuites et le jansénisme ?
Alors il a eu un rôle dans la querelle théologique fondamentale. On peut même dire qu'avec lui, on a un vrai tournant dans la lutte ou dans la querelle janséniste entre les jansénistes et les jésuites. D'abord, c'est ce qu'il sait faire le mieux. La première chose qu'il fait, il écrit pour défendre son parti. Par exemple, il a un livre qui s'appelle « Les écrits sur la grâce ». Donc vous voyez, là, on est tout à fait dans... Donc des écrits tout à fait conformes au débat. Hein. Il rentre dans le débat, il écrit. Ça concerne des élites. Hein. Tout le monde ne lit pas tout ça. Et puis, en 1656, et c'est là qu'intervient le tournant, il entre d'une manière différente dans la lutte en publiant une lettre écrite à un provincial. Cette lettre écrite à un provincial, en fait, c'est une fiction. C'est quelqu'un de Paris qui écrit à quelqu'un de province où il raconte ce qui se passe à Paris à propos du jansénisme. Et c'est là, pour le coup, on est dans une écriture très simple, très anecdotique, avec même des traits humoristiques. Il se moque des adversaires. Alors, les adversaires en premier, c'est les jésuites. Il se moque des mœurs dépravées des jésuites, puisqu'on peut faire ce qu'on veut, juste la grâce suffisante, etc. Donc, de temps en temps, on peut un peu se débrouiller avec la religion. Enfin, on est presque à la naissance de l'anti-jésuitisme, hein, la légende noire des jésuites. On peut même dire qu'elle commence là. Et comme c'est écrit simplement et que ce sont des petits libelles, hein, là, il y a une première lettre, mais il y en aura d'autres, puisque en tout, il y en aura 18. Ces petites lettres vont être très diffusées, le parti janséniste, bien entendu, les diffuser, mais elles vont être surtout très lues. Et vous savez comment ça se passe à l'époque, elles sont très lues par ceux qui savent lire, mais elles sont très lues aux autres. Hein, on a des cercles de lecture qui se font, et on a donc une querelle qui descend d'abord au niveau des prêtres. C'est plus les théologiens qui débattent sur la grâce, mais on est là au niveau de prêtres. Et puis ces prêtres, avec leurs fidèles, alors je dirais pas que le cordonnier du coin... a forcément lu les provinciales, mais on a quand même beaucoup plus de personnes, une opinion publique qui se forme et qui se régale de ces provinciales. Quand on va réunir toutes les lettres, elles sont anonymes, hein, parce que c'est quand même, il joue quand même sa vie, oui, Blaise Pascal. Elles sont anonymes, mais là, on a une opinion publique qui se crée, et c'est là où il y a le tournant janséniste. C'est que ça devient un courant, des débats qui vont alimenter les discussions de tout à chacun. Alors, bien sûr, peut-être pas des gens de milieu très, très populaire, mais voilà, qui vont quand même alimenter un débat qui se popularise au XVIIe siècle.
Donc il y a eu des répercussions.
Alors les répercussions ont été immenses. Hein. Donc les libelles ont eu un succès énorme. Notamment, alors, très vite, Blaise Pascal a vite dévié sur les critiques des jésuites. hein, qui sont devenus le cœur de ces attaques. Ça a régalé tout le monde. Et l'opinion publique a tellement adhéré à tout ça que, en retour, on a eu des persécutions. Enfin, il y a eu des recherches qui ont été faites pour trouver où étaient publiées ces lettres. Des descentes qui ont été faites, notamment à Port-Royal des Champs, hein, des descentes de police pour trouver tout ça, parce que en critiquant les alliés du roi, finalement, on critique aussi le roi. Je vous rappelle qu'on est bien avant que avant Port-Royal détruit, etc. Et l'auteur donc était anonyme, il a jamais été trouvé à l'époque, et les écrits ont été condamnés. Hein, chaque lettre a eu une condamnation en bonne et due forme. Pas une condamnation de l'Église, une condamnation de l'État.
Et donc, en fait, aujourd'hui, quand on parle de ce conflit, en tout cas de ces oppositions, c'est Blaise Pascal qui ressort.
C'est lui qui est le plus connu. Alors, il est connu aussi pour ses pensées. Vous savez que les pensées de Pascal, c'est en fait une réunion de ses écrits après sa mort. Hein. C'est pas lui qui les a composées. Donc, c'est vrai que Blaise Pascal, il est connu. Et puis, la calculatrice, les prémices de calculatrice. Donc, on va dire que la notoriété de Blaise Pascal fait qu'on le retient, lui. Au niveau théologique, c'est pas lui qui était le plus en... On avait des personnes comme Nicole, c'est le nom de famille, hein, ou Arnaud, la famille Arnaud, qui était des grands polémistes, ou Pasquier Quesnel aussi, qui était un oratorien. Donc il y avait déjà des grandes figures, mais elles sont pas restées à la postérité. D'abord parce qu'elles écrivaient des livres sérieux, comme quoi des fois des livres un peu plus légers, ça se vend mieux, et pour le cas, là c'est vrai. Et puis donc Blaise Pascal, il est connu. Alors à l'époque, il écrivait, le nom qui était mis, c'était Louis de Montalt, sur les provinciales. Oui, c'est le personnage qui fait qu'on connaît plus ses écrits que les autres.
Est-ce qu'il y a eu des études qui sont venues pour comparer, justement, en tout cas pour démontrer les différents aspects à la fois du jansénisme et de la théorie jésuistique, si j'ose dire, sur la grâce, précisément?
Alors depuis le XVIIe siècle, je dirais que les livres à propos de la grâce n'ont pas tari. Je crois même qu'il y a eu, il n'y a pas très longtemps, une espèce, pas de mise au point, mais un petit... presque une petite mise au point du pape François, hein, qui a évoqué la question de la grâce, qui a essayé de trouver un juste milieu. Le problème des adversaires des jansénistes, c'est que si vous attaquez... Leur problème, c'est qu'il faut attaquer le janséniste. Mais vous ne pouvez pas attaquer Saint-Augustin. Saint-Augustin, c'est un père de l'Église. Et ce que Saint-Augustin a dit sur la grâce, on peut difficilement le remettre en cause. Donc tout le jeu, c'est de montrer que les jansénistes ont dévoyé la pensée de Saint-Augustin et qu'ils ont une pensée qui est en fait travestie. Et donc tout le jeu des jansénistes, c'est de montrer qu'ils sont tout à fait dans la norme et qu'eux défendent en fait la vraie pensée antique de l'Église. Alors là, je ne vais pas vous faire toute la bibliographie qui tiendrait une bonne bibliothèque, mais c'est des débats qui sont assez récurrents.
Calade, ma radio.
Oui, donc on peut penser, pour penser à un grand auteur, c'est Claudel qui reçoit la grâce en rentrant dans une église. Voilà.
Oui, bien sûr, derrière le pilier.
Derrière le pilier, voilà. Donc on la reçoit, donc on n'a pas qu'un petit bout.
Oui, mais on reçoit la grâce, mais quel niveau de grâce on la reçoit, donc on serait plutôt du côté du pape. Mais oui, là, les débats théologiques vont être ardus. Je précise aussi que là-dedans, un des jeux des jésuites, c'était de montrer que les jansénistes avaient la même théorie de la grâce que les protestants. Et pour le coup, si on les comparait aux protestants, ils étaient hors de l'Église. Donc les jansénistes ont écrit de très bons livres en disant que ce qui les distinguait des protestants, justement, d'ailleurs, eux ne nient pas l'Église. Hein, ils ne remettent pas en cause les évêques, les prêtres, ni le pape. Hein, ils font qu'une discussion théologique.
Après la mort de Pascal, comment a évolué le jansénisme?
Alors Pascal meurt en 1662 Alors, le mouvement est poursuivi par la royauté, comme je vous l'ai dit, et par l'Église, mais surtout par la royauté. Les opposants, qui étaient des opposants au roi, du moins à l'absolutisme royal, continuent à être pourchassés. Mais le jansénisme évolue, en fait, dans ce que Blaise Pascal avait initié. C'est-à-dire qu'on a un mouvement qui devient de plus en plus populaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, les curés entrent de plus en plus dans le débat. Il y a notamment une mesure qui a été faite par Rome et relayée par, par Versailles, c'était qu'on demandait de signer une bulle qui condamnait des écrits de Jansénius, justement. Du moins, 5 propositions de Jansénius. Et on demandait à tous les ecclésiastiques de signer que ces 5 propositions étaient hérétiques. Et cette décision, il y a eu un appel qui a été fait par des évêques. Donc à l'époque, ils avaient le droit de faire appel au Parlement. Et tout le monde signait l'appel. On les appelait les appelants. Et on s'est aperçu qu'il y a de nombreux prêtres, de simples prêtres de campagne parfois, qui ont été formés par les ordres religieux qui étaient imbriqués dans ces querelles-là, hein, les dominicains, les oratoriens, les josephistes. Et on a eu de nombreux prêtres qui ont fait appel de la bulle du pape. Donc vous voyez que la querelle s'est popularisée. Et au niveau de la population, à un tel point que on est arrivé à un moment, au XVIIIe siècle, à ce que le seul recours possible, c'était Dieu, pour trancher dans la grâce. Et ça a été la période où sont apparus des miracles, hein, les miracles qui venaient en faveur des jansénistes. Et là, c'est un autre mouvement qu'on appelle les convulsionnaires, mais je ne vais pas développer, c'est un peu plus compliqué.
D'accord. Est-ce qu'il y a eu des répercussions dans notre région et qu'en reste-t-il aujourd'hui?
Alors, je l'ai dit tout à l'heure pour ce qui reste aujourd'hui, mais les répercussions dans la région, elles viennent surtout d'un archevêque de Lyon qui s'appelait Malvin de Montazet, qui meurt en 1788. Et Malvin de Montazet, alors il n'était pas janséniste, on va dire qu'il était assez laxiste. Et il a fait venir dans son diocèse ces fameux ordres religieux qui étaient très marqués par le jansénisme, donc dominicains, oratoriens et joséphistes. Or, ces ordres religieux, ils avaient les lieux d'apprentissage des prêtres, les séminaires, et ils ont diffusé, en fait, dans le diocèse, ces doctrines jansénistes. Ce qui fait que Lyon est devenu un centre, juste avant la veille de la Révolution, à la veille de la Révolution française, est devenu un centre de jansénisme en France, d'où la prospérité que j'ai citée tout à l'heure dans la petite église de Lyon ou dans certains groupes du Beaujolais, hein, Audenas, et puis même dans la Loire, près de Saint-Étienne, par exemple.
D'accord. Eh bien, merci Jean-Pierre. Rendez-vous le samedi 9 septembre à 16h à l'auditorium pour prolonger cette émission avec la conférence proposée par l'Académie Blaise Pascal ou La pensée façon Peulse par Alexandre Portier. Retrouvez toutes nos actualités sur notre page Facebook et notre site internet académie-villefranche.fr. Bonne rentrée à tous.
Merci Jean-Pierre.
Merci.
La chronique beaujolaise de l'Académie. Une émission proposée par les académiciens Pierre Prunet et Jean-Pierre Chantin. Sur Calade, le 100.9 et www.radio-calade.fr.